littéraire, très souvent du conte, ou du récit d'aventure, ou même du récit de voyage. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, pensez pour les voyages aux fameuses aventures africaines qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Alors, il se sert de personnages mythiques littéraires, comme par exemple le fameux Robinson Crusoe. Vous avez tous lu Robinson, la vie sauvage, fait pour les enfants. Alors, il se sert donc de ces mythes-là, tirés de la littérature, ou de mythes beaucoup plus récents. Par exemple, je pense au Père Noël, qui est, comme chacun sait, non pas un mythe littéraire, mais un mythe populaire, et qui est relativement récent. Alors, nous allons vous lire quatre en tout, n'ayez pas peur. Le coq de Bruyère. Alors, où il utilise deux mythes littéraires, celui de Robinson, nous vous lirons ce qui s'appelle la fin de Robinson, et le fameux Père Noël, une nouvelle qui s'appelle Conte de Noël, la mère Noël. Et enfin, deux autres textes tirés du Médianos Charmant. Alors, la comportant, un conte, ici on utilise la forme du conte courtois, un conte dit étiologique. L'étiologie, c'est l'étude des causes, des raisons. Et un conte étiologique, c'est un conte qui cherche à expliquer quelque chose. Certains d'entre vous ont lu dans Rudyard Kipling l'histoire de l'éléphant. Comment l'éléphant a eu une trompe, c'est un conte étiologique. Comment la fourmi a pu pas, comment, etc. Tout un tas, ce sont ce type de conte, et lui va donc s'en servir dans la légende du pain. Alors, et ensuite et un dernier, nous lirons la légende de la musique et de la danse, qui reprend sous forme de conte transformé. Le récit de la Genèse qu'il a raconté des centaines, mais au moins une bonne dizaine de fois sous des formes un peu différentes et toujours un peu amusantes d'ailleurs. Alors nous allons commencer par la légende du pain, extrait donc. Il était une fois au bout de la France, là où finit la terre, là où commence l'océan, c'est-à-dire exactement dans le Finistère, deux petits villages qui vivaient en état de perpétuelle rivalité. L'un s'appelait Plouinet et l'autre Pouldrezy.
Leurs habitants ne manquaient pas une occasion de s'affronter. Les gens de Plouinec, par exemple, jouaient du biniou comme nulle part ailleurs, en pays breton.
C'était une raison suffisante pour que ceux de Pouldrezy ignorent ostensiblement cet instrument et jouent avec prédilection de la bombarde. C'est une sorte de flageolet qui s'apparente aussi au hautbois et à la clarinette.
Et il en allait de même dans tous les domaines. Les uns cultivant l'artichaut, les autres la pomme de terre.
Ceux-ci gavant des oies, quand ceux-là engraissaient des cochons.
Les femmes d'un village, portant des coiffes simples comme des tuyaux de cheminée, celles de l'autre village, ouvrageant des leurs comme des petits édifices de dentelle.
Il n'était pas jusqu'au cidre de Plouinec, dont Plouinec s'abstenait, parce que celui de Pouldrezy était fameux. Vous me direz, mais alors, qu'est-ce qu'on buvait à Plouinec? Eh bien, on y buvait une boisson originale, faite non avec des pommes, mais avec des poires, et appelée pour cela le poiré.
Bien entendu, on ne mangeait pas le même pain à Pouinec et à Pouldreuzic. Pouinec s'était fait une spécialité de pain dur, tout en croûte, dont les marins se munissaient quand ils partaient en croisière, parce qu'il se conservait indéfiniment.
À ce biscuit de Pouinec, les boulangers de Pouldreuzic opposaient un pain tout en mie, doux et fondant à la bouche, qu'il fallait manger pour l'apprécier, chaud du four et qu'on appelait de la brioche.
Mais les choses se compliquèrent le jour où le fils du boulanger de Pouldreuzic tomba amoureux de la fille du boulanger de Pouinec. Oui, les familles concernées s'acharnèrent à détourner les deux jeunes gens d'une union contre nature, grosse de difficultés de toutes sortes. Rien n'y fit. Gaël voulait Guénaël. Et Guénaël voulait Gaël.
Mais par chance, Plouinec et Pouldreuzic ne sont pas immédiatement voisins. Si vous consultez la carte du Finistère, vous verrez qu'il existe un village situé à mi-chemin des deux. C'est Plozévette. Or, Plozévette n'ayant pas de boulangerie en ce temps-là, les parents de Gaël et de Guénaël décidèrent d'y établir leurs enfants. Ce serait également à Plozévette qu'on les marierait. Ainsi, ni Pouldreuzic ni Plouinec ne se sentiraient humiliés. Quant au banquet de noces, on y mangerait des artichauts et des pommes de terre, des oies et du cochon, le tout arrosé également de cidre et de poire.
La question du pain qui se trouverait sur la table n'était pas aussi facile à résoudre. Les parents pensèrent d'abord y distribuer à part égale biscuits et brioches. Mais les enfants objectèrent qu'il s'agissait d'un mariage et d'un mariage de boulanger et que, par conséquent, il fallait trouver le moyen de marier eux aussi biscuits et brioches. Bref, la nouvelle boulangerie se devait de créer un pain nouveau, le pain de Plozévette, également apparenté au pain croûte de Pouinec et au pain mie de Pouldreuzic. Mais comment faire? Comment faire du pain ayant à la fois de la croûte et de la mie?
Deux choses paraissaient possibles. Gaël fit observer à Guénaël qu'on pouvait prendre modèle sur les crabes et les homards. Chez ces animaux, le dur est à l'extérieur, le mou à l'intérieur.
Guénaël lui opposa l'exemple des lapins, des chats, des poissons et des enfants. Là, le mou, chair, est à l'extérieur. Le dur, os ou arête, à l'intérieur. Elle se souvenait même de deux mots savants qui désignent cette différence. Les homards sont des crustacés. Les lapins, des vertébrés.
Il y avait donc le choix entre deux sortes de pains durs. Le pain crustacé dont la croûte forme comme une carapace qui enveloppe la mie, et le pain vertébré dont la croûte se trouve cachée au plus épais de la mie.
Ils se mirent au travail, chacun suivant son idée. Il apparut aussitôt que le pain crustacé se cuit beaucoup plus facilement que le pain vertébré. En effet, une boule de pâte mise au four, sa surface sèche, dort et durcit. À l'intérieur, la pâte reste blanche et molle. Mais comment faire du pain vertébré? Comment obtenir une croûte dure à l'intérieur de la mie?
Gaël triomphait avec son pain crustacé, mais les échecs de sa fiancée lui faisaient de la peine. Et pourtant, elle ne manquait pas de ressources, la petite boulangère Guénaël. Elle avait compris que c'était la chaleur de la cuisson qui fait naître la croûte. Donc, le pain vertébré devait être cuit de l'intérieur et non de l'extérieur, comme c'était pas dans un four. Elle avait ainsi eu l'idée d'enfoncer dans la pâte une tige de fer brûlante, comme une sorte de tisonnier. Ah, il fallait la voir manier son tisonnier comme une arme fumante. Elle serrait les dents et faisait saillir son menton en embrochant les miches avec son épée de feu.
Gaël, qui l'observait, en avait froid dans le dos, car il se demandait ce que sa fiancée pouvait bien avoir dans la tête et le cœur pour imaginer cet étrange combat et s'y jeter avec tant d'ardeur. Et puis, serait-ce toujours les miches qu'elle transpercerait ainsi avec un fer rouge?
Qu'importait d'ailleurs. Elle n'arrivait à rien de bon. Et seul le pain crustacé se trouva au point quand arriva le jour du mariage. Et c'est ce jour-là, à Plovezette, que fut goûté officiellement pour la première fois le pain que nous connaissons. Composé d'une croûte dorée entourant la masse douce et moelleuse de la mie.
Est-ce à dire que le pain vertébré fut définitivement oublié?
Non, pas du tout.
Il devait au contraire connaître dans les années qui suivirent une revanche éclatante, pleine de tendresse et de poésie. Gaël et Gwenaël eurent un petit garçon qu'ils appelèrent Anissé, avec l'espoir que ce prénom parfumé l'aiderait à se faire une place dans leur corporation. Ils ne furent pas déçus, car c'est lui qui, à l'âge de 5 ans, suggéra à sa mère l'idée qui devait imposer le pain vertébré.
Il lui suffit pour cela de manger à 4 heures une brioche avec un morceau de chocolat. Sa mère, qui l'observait tenant d'une main sa brioche, de l'autre son morceau de chocolat, se frappa le front et se précipita dans le fournil de la boulangerie. Elle venait de songer que l'os, la vertèbre, le dur du pain vertébré pouvait être constitué par une barre de chocolat.
Le soir même, la boulangerie de Plovezette mettait en vitrine les premiers petits pains au chocolat de l'histoire. Ils devaient bientôt conquérir le monde et faire la joie de tous les enfants.
Le village de Poudre, que nous connaissons déjà, bien sûr, allait-il connaître une période de paix? Depuis des lustres, il était déchiré par l'opposition des cléricaux et des radicaux, de l'école libre des frères et de la communale laïque, du curé et de l'instituteur.
Les hostilités qui empruntaient les couleurs des saisons viraient à l'enluminure légendaire avec les fêtes de fin d'année.
La messe de minuit avait lieu pour des raisons pratiques le 24 décembre à 6 heures du soir.
À la même heure, l'instituteur, déguisé en Père Noël, distribuait des jouets aux élèves de l'école laïque.
Ainsi, le Père Noël devenait-il par ses soins un héros païen, radical et anticlérical. Et le curé lui opposait le petit Jésus de sa crèche vivante, célèbre dans tout le canton d'ailleurs, comme on jette une ondée d'eau bénite à la face du diable. Oui, Pontoisy allait-il connaître une trêve?
C'est que l'instituteur, ayant pris sa retraite, avait été remplacé par une institutrice étrangère au pays, et tout le monde l'observait pour savoir de quel bois elle était faite. Madame Loiselin, mère de deux enfants, dont un bébé de 3 mois, était divorcée, ce qui paraissait un gage de fidélité laïque.
Mais le parti clérical triompha dès le premier dimanche, lorsqu'on vit la nouvelle maîtresse faire une entrée remarquée à l'église.
L'été paraissait jeté. Il n'y aurait plus d'arbre de Noël, sacrilège à l'heure de la messe de minuit. Et le curé resterait seul maître du terrain.
Aussi, la surprise fut-elle grande quand Madame Loiselin annonça à ses écoliers que rien ne serait changé à la tradition et que le Père Noël distribuerait ses cadeaux à l'heure habituelle. Mais quelle surprise-t-elle ? Et qui allait tenir le rôle du Père Noël ? Le facteur et le garde champêtre, auxquels tout le monde songeait en raison de leurs opinions socialistes, affirmaient n'être au courant de rien.
L'étonnement fut à son comble quand on apprit que Madame Loiselin prêtait son bébé au curé pour faire le petit Jésus de sa célèbre crèche.
Au début, tout alla bien. Le petit Loiselin dormait à poing fermé quand les fidèles défilèrent devant la crèche, les yeux affûtés par la curiosité. Le bœuf et l'âne, un vrai bœuf, un vrai âne, paraissaient attendris devant le bébé laïque, si miraculeusement métamorphosé en sauveur.
Malheureusement, il commença à s'agiter dès l'évangile. Et ses hurlements éclatèrent au moment où le curé montait en chair. Jamais on n'avait entendu une voix de bébé aussi éclatante. En vain, la fillette qui jouait la Vierge Marie le berça-t-elle contre sa maigre poitrine. Le marmot, rouge de colère, trépignant des bras et des jambes, faisait retenir les voûtes de l'église de ses cris furieux. Et le curé ne pouvait pas placer un mot.
Finalement, il appela l'un des enfants de cœur et lui glissa un ordre à l'oreille. Sans quitter son surpris, le jeune garçon sortit et on entendit le bruit de ses galoches décroître au dehors.
Quelques minutes plus tard, la moitié cléricale du village, tout entière réunie dans la nef, eut une vision inouïe qui s'inscrivit à tout jamais dans la légende dorée du pays Bigoudin.
On vit le Père Noël en personne faire éruption dans l'église. Il se dirigea à grands pas vers la crèche. Puis il écarta sa grande barbe de coton blanc. Il déboutonna sa houppelande rouge et tendit un sein généreux au petit Jésus, soudain apaisé. La légende de la musique et de la danse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, les ténèbres couvraient la terre et le silence emplissait le ciel. Dieu créa donc les astres, les luminaires et les planètes.
Et la lumière fut. Mais pas seulement la lumière, car les astres, les luminaires et les planètes, en accomplissant dans le ciel leur parabole et leur révolution, émettaient des sons. Et on ne cessait d'entendre une sorte de concert céleste doux, profond et ravissant. La musique des sphères.
Ensuite, Dieu créa l'homme. Et il le fit mâle et femelle. Ce qui veut dire qu'il avait des seins de femme et un sexe de garçon à la fois. Et Dieu se retira derrière un nuage pour voir ce qu'Adam allait faire.
Qu'allait donc faire Adam ? Il cressa l'oreille et écouta ce chant flûté qui tombait du ciel. Puis il mit un pied devant l'autre, il étendit les bras en croix et il tourna lentement sur lui-même. Il tourna, 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 si bien que pris de vertige, il tomba sur le sol et il resta un moment hébété. Enfin, il se secoua et mécontent appela son père. « Ohé, Dieu du ciel !»
Dieu, qui n'attendait que cet appel, apparut aussitôt. « Mon fils, qu'y a-t-il ? » ?»« Il y a, dit Adam, que je ne puis entendre cette musique sans danser. Or, les sphères sont nombreuses et leur musique est celle d'un véritable ballet. Et moi, je suis seul. Quand mes pieds avancent, ils ne savent pas vers qui. Et quand mes bras se tendent, ils ne savent pas non plus vers quoi. » C'est vrai, dit Dieu. Si l'homme doit danser, il n'est pas bon qu'il demeure seul.
Alors, il fit tomber Adam dans un profond sommeil, puis sépara son corps en deux moitiés, la moitié mâle et la moitié femelle. Et de cet être devenu double, il fit un homme et une femme. Car ces deux êtres, quand ces deux êtres ouvrirent les yeux, Dieu dit à l'un, c'est ta cavalière. Et dit à l'autre, c'est ton cavalier.
Puis il se retira derrière son nuage pour voir ce qu'ils allaient faire. Que firent donc Adam et Ève en se découvrant si merveilleusement différents et complémentaires? Ils tendirent l'oreille à la musique des sphères.
N'est-ce pas un pas de deux que nous entendons, demanda Ève. Et ils dansèrent le premier pas de deux.
N'est-ce pas la menuée, demanda plus tard Adam. Et ils dansèrent le premier menuée.
N'est-ce pas une valse, demanda ensuite Ève. Et ils dansèrent la première valse.
Enfin, prêtant l'oreille, Adam demanda, n'est-ce pas cette fois un quadrille? Sans doute, lui répondit Ève. C'est un gabrille. Mais pour cette danse-là, il faut être au moins quatre. Arrêtons-nous donc un instant et songeons à Caïn et à Abel. Et c'est ainsi que pour les besoins de la danse, l'humanité se multiplie.
Or, il y avait nombre d'arbres dans le paradis. Et chacun, par ses fruits, conférait une connaissance particulière. L'un révélait les mathématiques, l'autre la chimie, un troisième les langues orientales.
Dieu dit à Adam et Ève, « Vous pouvez manger des fruits de tous les arbres et acquérir toutes les connaissances. Gardez-vous cependant de manger des fruits de l'arbre de la musique, car connaissant les notes, vous cesseriez aussitôt d'entendre la grande symphonie des sphères célestes. Et croyez-moi, rien n'est plus triste que le silence éternel des espaces infinis. » Ce qui prouve que Dieu avait lu Pascal.
Adam et Ève étaient perplexes. Le serpent leur dit, mangez donc des fruits de l'arbre de la musique. Connaissant les notes, vous ferez votre propre musique et elle égalera celle des sphères. Ils finirent par céder à la tentation. Or, à peine eurent-ils mordu dans un fruit de l'arbre de la musique que leurs oreilles se bouchèrent. Ils cessèrent d'entendre la musique des sphères. Et un silence funèbre tomba sur eux.
Ainsi fini le paradis terrestre. L'histoire de la musique commençait. Adam et Ève, puis leurs descendants, entreprirent de tendre des peaux sur des calebasses et des boyaux sur des archers. Ils percèrent des trous dans des tiges de roseaux et tordirent des lingots de cuivre pour fabriquer des diapasons.
Cela dura des millénaires. Et il y eut Orphée.
Et il y eut Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven.
Il y eut Ravel, Debussy, Benjamin Britten et Pierre Boulez.
Mais le ciel demeura désormais silencieux et plus jamais on entendit la musique des sphères. La fin de Robinson Crusoe. Mais elle était là. Là, vous voyez, au large de la Trinité, à 9,22 degrés de latitude nord, il n'y a pas d'erreur possible. L'ivrogne frappait de son doigt noir un lambeau de cartes géographiques souillées de taches de graisse, et chacune de ses affirmations passionnées soulevait le rire des pêcheurs et des dockers qui entouraient notre table.
On le connaissait. Il jouissait d'un statut à part. Il faisait partie du folklore local. Nous l'avions invité à boire avec nous pour entendre de sa voix éraillée quelques-unes de ses histoires. Quant à son aventure, elle était exemplaire et navrante à la fois, comme c'est souvent le cas.
40 ans plus tôt, il avait disparu en mer à la suite de tant d'autres. On avait inscrit son nom à l'intérieur de l'église avec ceux de l'équipage dont il faisait partie. Puis, on l'avait oublié.
Pas au point, cependant, de ne pas le reconnaître. Lorsqu'il avait reparu au bout de 22 ans, hirsute et véhément, en compagnie d'un nègre. L'histoire qu'il dégorgeait à toute occasion était stupéfiante. Unique survivant du naufrage de son bateau, il serait resté seul sur une île peuplée de chèvres et de perroquets, sans ce nègre qu'il avait, disait-il, sauvé d'une horde de cannibales. Enfin, une goélette anglaise les avait recueillis et il était revenu, non sans avoir eu le temps de gagner une petite fortune grâce à des trafics divers, assez facile dans les Caraïbes de cette époque.
Tout le monde l'avait fêté. Il avait épousé une jeunesse qui aurait pu être sa fille, et la vie ordinaire avait apparemment recouvert cette parenthèse béante, incompréhensible, pleine de verdure luxuriante et de cris d'oiseaux, ouverte dans son passé par un caprice du destin.
Apparemment, oui. Car en vérité, d'année en année, un sourd ferment semblait ronger de l'intérieur la vie familiale de Robinson. Vendredi, le serviteur noir avait succombé le premier. Après des mois de conduite irréprochable, il s'était mis à boire. Discrètement d'abord, puis de façon de plus en plus tapageuse. Ensuite, il y avait eu l'affaire des deux filles mères recueillies par l'hospice du Saint-Esprit, et qui avait donné naissance, presque simultanément, à des bébés métis d'une évidente ressemblance. Le double crime n'était-il pas signé?
Mais Robinson avait défendu vendredi avec un étrange acharnement. Pourquoi ne le renvoyait-il pas? Quel secret, inavouable peut-être, le liait-il au nègre? Enfin, des sommes importantes avaient été volées chez leurs voisins. Et avant même qu'on eût soupçonné qui que ce soit, le vendredi avait disparu. L'imbécile, avait commenté Robinson. S'il voulait de l'argent pour partir, il n'avait qu'à m'en demander. Et il avait imprudemment ajouté, d'ailleurs, je sais bien où il est parti.
La victime du vol s'était emparée du propos et avait exigé de Robinson ou qu'il remboursât l'argent ou alors qu'il livrât le voleur. Robinson, après une faible résistance, avait payé. Mais depuis ce jour, on l'avait vu de plus en plus sombre, traîner sur les quais ou dans les bouchons du port, en répétant parfois « Il y est retourné, oui. Oui, j'en suis sûre. Il y est, ce voyou, à cette heure. »
Car il était vrai qu'un ineffable secret l'unissait à vendredi. Et ce secret, c'était une certaine petite tache verte qu'il avait fait ajouter dès son retour par un cartographe du port sur le bleu océan des Caraïbes. Cette île, après tout, mais c'était sa jeunesse, sa belle aventure, son splendide et solitaire jardin. Qu'attendait-il sous ce ciel pluvieux, dans cette ville gluante, parmi ses négociants et ses retraités?
Sa jeune femme, qui possédait l'intelligence du cœur, fut la première à deviner son étrange et mortel chagrin. « Tu t'ennuies, je le vois bien. Allons, avoue que tu le regrettes, que tu la regrettes. Moi, tu es folle. Je regrette qui, quoi ? Ton île déserte, bien sûr. Et je sais ce qui te retient de partir dès demain. Je le sais, va. C'est moi. » Il protestait à grands cris, mais plus il criait fort, plus elle était sûre d'avoir raison.
Elle l'aimait tendrement et n'avait jamais rien su lui refuser. Aussi, elle mourut. Aussitôt, il vendit sa maison et son champ et fretta son voilier pour les Caraïbes. Des années passèrent encore, on recommença à l'oublier. Mais quand il revint de nouveau, il parut plus changé encore qu'après son premier voyage.
C'était comme aide cuisinier, à bord d'un vieux cargo qu'il avait fait la traversée. Un homme vieilli, brisé, à demi noyé dans l'alcool. Ce qu'il dit souleva l'hilarité générale. Introuvable. Malgré des mois de recherche acharnée, son île était demeurée introuvable. Il s'était épuisé dans cette exploration vaine avec une rage désespérée, dépensant ses forces et son argent pour retrouver cette terre de bonheur et de liberté qui semblait engloutie à jamais. Et pourtant, elle était là, répétait-il une fois de plus ce soir, en frappant du doigt sur sa carte.
Alors, un vieux timonier se détacha des autres et vint lui toucher l'épaule. « Veux-tu que je te dise, Robinson, ton île déserte, bien sûr qu'elle est toujours là, et même je peux t'assurer que tu l'as bel et bien retrouvée. » « Retrouvée ?» Robinson suffoquait. « Mais puisque je te dis, tu l'as retrouvée. Tu es passé peut-être 10 fois devant, mais tu ne l'as pas reconnue. Bah, » pas reconnue ? Non, parce qu'elle a fait comme toi, ton île. Elle a vieilli. Eh oui, vois-tu ? Les fleurs deviennent fruits, et les fruits deviennent bois. Et le bois vert devient bois mort. Tout va bien vite sous les tropiques. Et toi, regarde-toi dans une glace, idiot. Et dis-moi si elle t'a reconnu, ton île, quand tu as passé devant.
Robinson ne s'est pas regardé dans une glace. Le conseil était superflu. Il a promené sur tous ses hommes un visage si triste et si hagard que la vague des rires qui repartait de plus belle s'est arrêtée net et qu'un grand silence s'est fait dans le tripot.
Voilà,
c'est très... On préfère des petites choses pas trop longues non plus. Voilà.